Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hein.
Qui d'entre nous n'a jamais feuilleté une revue People chez son coiffeur ou dans la salle d'attente d'un cabinet médical ? Des têtes couronnées, des chanteurs, des actrices, des caricatures de la télé-réalité font vendre du papier et tiennent en haleine les réseaux sociaux avec leurs heures et malheurs. Même le président Macron, à force de téléobjectifs, se retrouve en jet-ski sur du papier glacé. Grâce au livre de notre invité d'aujourd'hui, nous partageons le quotidien d'une de ces célébrités. Un acteur du cinéma français, monstre sacré et sa famille sont au centre d'un roman dont l'action se passe principalement dans un château. Ce ne sont pas les paparazzi qui nous informent, mais une enfant. Elle va nous raconter l'intimité familiale, les employés et leurs intrigues, et aussi la rencontre avec les nouveaux venus du 93 et de la diversité. Tout va déraper à l'occasion d'événements qui ont aussi percuté nos vies. Les gilets jaunes, la pandémie et son confinement auront des conséquences. La mort brutale, peut-être en lien avec un gros magot optimisé fiscalement mais coincé dans un paradis, objet d'une succession à rebondissements. Il s'agit d'un livre qui tient de la satire sociale et de l'enquête policière et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui son auteur, Julia Tech, pour son cinquième roman qui s'intitule « Monument national » publié aux éditions de Minuit. Bonjour Julia Deck.
Bonjour.
La dernière fois que vous étiez venue au micro de Radio Présence, vous aviez dialogué avec Monique Fauché pour votre avant-dernier livre, Propriété privée. L'action se passait dans un écoquartier et votre narratrice a eu forte affaire avec un voisinage intrusif. Dans votre nouveau livre, nous changeons de géographie, on s'éloigne de la ville, on va peut-être à la campagne. En tout cas, Monument National s'ouvre devant les grilles d'un château qui va être le lieu de bien des rebondissements. Alors, pour donner envie de rentrer dans ce château sans divulguer des informations sensibles qui gâcheraient le suspense du livre, nous allons procéder pas à pas. Et je vous demanderai de m'aider pour décrire le lieu et ses habitants. Alors tout d'abord, où se situe ce château et à quoi ressemble-t-il quand on ouvre son portail ?
C'est vrai qu'au début du livre, on est à l'extérieur du château, on est face à ces grilles qui souvent ferment les grandes propriétés. Et on voit un château qui ressemble au Petit Trianon, donc le château de Marie-Antoinette, mais qui n'est pas le Petit Trianon, le vrai Petit Trianon, qui est une copie. Et ce château est donc habité par les célébrités que vous avez décrites. Oui, c'est comme un monument national, mais on sait d'entrée de jeu que c'est d'une certaine façon un faux monument puisque c'est une copie et c'est une copie d'un château très étroitement associé à la Révolution.
Alors, est-ce vraiment une copie ? Parce qu'il est classé. À un moment, il faut quand même demander l'autorisation au bâtiment de France pour faire les aménagements et les réparations.
Bah, alors, ça, c'est vrai qu'on peut débattre de ce qui pourrait être une architecture authentique. Tous les bâtiments sont issus de l'histoire de l'architecture qui les a précédés et évidemment que les architectes s'influencent les uns les autres et que certaines époques font revivre d'une certaine manière l'architecture d'autres époques. Donc c'est pas parce que le château est une copie que il n'est pas que c'est pas par définition un monument admirable. Moi ce qui m'intéressait surtout c'est cette volonté des célébrités d'aujourd'hui de se rattacher à une histoire dont ils sont fatalement très très éloignés, parce qu'en l'occurrence, c'est une star de cinéma mariée avec une ancienne, pas Miss France, mais Miss régionale.
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Oui, c'est
le propriétaire. Alors, il s'appelle Serge Langlois.
Et bon, bah, c'est des gens qui sont finalement issus d'un milieu assez populaire, ou en tout cas certainement pas aristocratique. Et je trouvais ça amusant de mettre en scène ce décalage.
Alors ce propriétaire, il est acteur, gouverneur, hein, faut bien le dire. Hein. Il a de nombreuses décorations à son palmarès. Il est reconnu par la profession, le 7e art. Il n'est jamais avare d'anecdotes, mais il est plutôt vieillissant.
Oui, alors j'ai essayé de créer un personnage de grand acteur français. Évidemment, on a plein de grands acteurs français dans la filmographie nationale. L'idée, c'était vraiment pas de faire un décalque de l'un ou de l'autre, d'Alain Delon ou de Jean-Paul Belmondo, qui sont cités ici ou là dans le livre, mais à titre de comparaison. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de rendre hommage à ces filmographies qui sont quand même exceptionnelles, à ces acteurs qui sont des acteurs de très très grand talent. Mais la situation où je prends mon personnage, c'est vraiment à la fin de sa carrière, le moment où il est réellement statufié dans l'esprit des Français et où il n'a plus beaucoup de films devant lui et sans doute qu'on ne va pas vers le meilleur. Non.
D'accord. Alors il vit en effet avec cette ex-miss provençale Côte d'Azur qui, elle, a vécu entre les Antilles et la Côte d'Azur, pour tout dire. Alors comment se sont-ils rencontrés ?
Ils se sont rencontrés tout simplement parce que elle était en classe avec sa fille à lui. Donc ça, c'est déjà un premier hic dans l'histoire familiale. C'est que il a épousé la meilleure amie plus ou moins de sa fille, fille issue d'un précédent mariage. Voilà, donc il y a une espèce de télescopage des générations. On sent qu'il y a des rivalités potentielles entre les générations. Et cette épouse, alors elle est elle-même célèbre, mais elle est d'un tout autre style de célébrité. Elle fait partie de ces célébrités actuelles qui me fascinent sans que je sache bien quoi en penser. C'est ces célébrités des réseaux sociaux, donc qui n'ont pas réellement fait grand-chose dans leur vie pour devenir célèbres. Elles ne chantent pas, elles ne dansent pas, elles ne jouent pas la comédie. Simplement, elles sont célèbres et parfois hyper célèbres parce qu'elles mettent en scène leur vie quotidienne, leur vie familiale, leur vie d'épouse. Donc c'est deux générations. Ils ont plus de le couple, l'homme et la femme, ont plus de 30 ans d'écart. Et ils appartiennent aussi à des générations extrêmement différentes dans leur rapport à la vie et à la réalité, puisque les réseaux sociaux, oui, c'est une manière de fictionnaliser sa vie en permanence.
Alors, ils ont des enfants adoptés, dont une fille qui s'appelle Joséphine, qui sera donc la demi-sœur de Virginia Langlois, qui est l'une des filles issues des mariages antérieurs de Serge Langlois. Et voilà, pour la famille, alors... Le château, il est spacieux, il a des dépendances, un pavillon de chasse, un parc immense, un jardin anglo-chinois, une piscine imposante, des ifs à tailler. Et donc pour tout ça, il faut, je dirais, du personnel. Parce que voilà, plus on possède d'objets, plus ce sont eux qui nous possèdent et on a la nécessité de les entretenir. Et donc il faut déléguer à des tiers. Et on voit dans ce château qu'il... Il y a des personnages. Alors, ces personnages, est-ce qu'on pourrait les prendre un par un et les décrire ? Alors, il y a d'abord le chauffeur.
Oui, alors, ce qui m'intéressait dans ce château, c'était pas uniquement de mettre en scène des célébrités. Alors, c'était ça d'une part, parce que vous disiez dans votre introduction, oui, on a tous été exposés au magazine People, qu'on le veuille ou non. Et moi, à force que ces gens me présentent leur vie sur des couvertures de magazines que, du reste, je n'achète pas, mais que je vois fatalement dans les kiosques, j'ai eu envie de rentrer chez eux. Après tout, ils s'invitent chez moi, je vais m'inviter chez eux. Et je me suis dit, évidemment, chez eux, ils sont chez eux. Mais il y a aussi tous les gens qui sont à leur service. Et pour moi, c'était vraiment l'enjeu, c'était d'essayer d'imaginer comment vivent ces deux populations. Alors, chez les célébrités modernes, on n'est évidemment pas dans des rapports de classe très dirigistes. On est sympa avec les domestiques, que d'ailleurs on n'appelle pas domestiques, ça se fait plus. On les appelle des employés de maison, on les appelle le personnel. Mais enfin, il y a quand même des rapports d'argent, voire de domination, du fait même qu'il y a des employeurs et des employés. Et donc il y a toute cette galerie de personnages qui n'appartiennent pas à la famille ou qui appartiennent à la famille étendue selon la manière dont on comprend le mot famille. Il y a le chauffeur, donc Ralph, qui conduit toutes les voitures. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de voitures de collection.
Alors lui, il connaît Serge Langlois d'avant Ambre. D'une certaine manière, il a une position un peu particulière. Il connaît les secrets, peut-être. C'est le fidèle des fidèles, parce qu'il y a eu une révolution de palais. Quand Ambre est arrivée, elle a renvoyer un certain nombre de personnes, et c'est elle qui gère un peu les entrées du château.
Oui, donc quand elle a épousé Serge Langlois, il a déjà au moins 50 ans, me semble-t-il, et il a toute une vie derrière lui, et il a déjà quelques personnes à son service, mais évidemment, toutes ces personnes ont été témoins de cette vie d'avant, et la nouvelle épouse, ben, elle n'a pas très très envie qu'on lui rappelle notamment les ex-épouses. Le seul qu'elle a gardé, c'est en effet le chauffeur Ralph, parce qu'il est indispensable à son mari pour bien des choses, y compris l'empêcher de boire à l'occasion.
Mais en fait, c'est cette domesticité, comme on disait avant, hein, qui est totalement oubliée, va être un peu les yeux et les oreilles. Donc finalement, cette famille Langlois, elle va être observée 24 heures sur 24, puisque il faut bien dire que tous les employés restent à demeure dans le château. Ils ne quittent pas le château le soir, a priori, enfin on l'imagine, mais ils dorment dans la maison.
Oui, c'est une propriété assez isolée. Donc, je l'ai située à Rambouillet, qui est, je sais pas trop combien de kilomètres de Paris. Enfin, c'est une banlieue. On peut pas vraiment dire une banlieue. C'est une ville un peu à l'extérieur de Paris et effectivement très boisée. Enfin, on n'est pas non plus à la campagne, mais c'est une zone privilégiée par bien des aspects. Il y a beaucoup de milliardaires, de célébrités qui habitent dans les environs, et ce château, il est entouré d'un parc. Il n'est pas accessible avec les transports en commun. De toute façon, personne n'emprunte. Il faudra envoyer
un Hummer pour aller chercher les invités à la gare, parce que il n'y a pas de transport en commun.
Oui, quand d'aventure quelqu'un se présente, une personne non véhiculée se présente, il faut envoyer une voiture de luxe à la gare de transport interurbain.
Très bien. Alors simplement pour nos auditeurs, j'aimerais lire un passage de votre livre pour dire un peu à quoi ressemble l'intérieur de ce château. Hein. Notre mère, cependant, affichait ingénument sa prédilection pour l'ancien régime. Ambre voulait des lustres et des chandeliers, l'argenterie et le cristal qui reflètent à l'infini leurs flammes blanches sur des surfaces immaculées. Elle cultivait les choses brillantes avec une énergie mêlée d'angoisse, comme si elle craignait de s'éteindre à la tombée du soir. Au grand salon, c'était une forêt de pieds cannelés, fauteuils cabriolets, poufs, sofas, méridiennes, sur lesquels veillaient des pendules et des miroirs rehaussés d'or. Les sièges étaient tapissés de velours turquoise, taillés dans la même étoffe. Les rideaux étaient retenus par des passementeries jaunes et brillantes comme la monnaie. C'est un petit peu tape à l'œil.
Oui, c'est un petit peu tape à l'œil, mais il y a eu des styles tape à l'œil dans l'histoire des arts décoratifs. Enfin,
c'est parce qu'ils le valent bien. C'est Langlois que il se.
Alors. C'est aussi cette femme qui met en scène sa vie sur les réseaux sociaux. En fait, elle est très naïve. Enfin, moi, je voudrais surtout pas lui jeter la pierre, parce que elle a des idées sur ce que doit être une vie luxueuse, une vie entre personnes d'un certain niveau, d'un certain rang dans la société. Et en fait, elle fonctionne avec des clichés. Elle est un peu perdue. Elle a pas tellement de références nulle part. Elle est un petit peu hors sol.
Elle est issue d'un père absent et d'une mère distraite. En fait, ça peut l'excuser.
Ah bah, il s'agissait pas de l'excuser, il s'agissait simplement d'en faire un personnage, c'est-à-dire de dépasser l'archétype. Enfin, c'est un personnage qui a une complexité. Elle est pas, moi je crois pas au rôle de la bergère et de la méchante sorcière. Donc les personnages sont toujours un petit peu. Il faut essayer de créer des personnages nuancés, et donc elle a cet aspect un peu caricatural qu'ont les gens souvent sur les réseaux sociaux, mais ça émane finalement d'une forme de naïveté, d'une forme de tristesse aussi, de finalement se raccrocher à des choses extrêmement standardisé. Pour elle, le luxe, c'est Marie-Antoinette, c'est l'Ancien Régime, et c'est les dernières heures de l'Ancien Régime, alors qu'on sait bien que l'Ancien Régime, il n'a pas très bien fini. C'est un peu un peu bizarre de vouloir absolument habiter dans le château de Marie-Antoinette quand on sait comment elle a fini, par exemple.
En effet. On va laisser le château parce qu'au début du roman, vous, dans un choc non pas thermique mais un peu socio-économique et culturel, vous faites basculer le récit dans une autre banlieue de Paris, enfin si on peut parler de Rambouillet comme une banlieue, c'est dans le 93. Alors pour voilà, c'est autre lieu, autre mœurs. Hein. Comment décrire cet endroit et les personnages qui s'y trouvent ? Personnages évidemment que vous avez sélectionnés parce qu'ils se retrouveront au château ultérieurement dans le roman.
Oui, donc alors là, on a posé le cadre de l'action principale. Simplement, va intervenir rapidement un problème au château. Et le problème, il va naître quand s'infiltrent petit à petit divers personnages au château qui vont petit à petit semer la zizanie. Donc la structure du livre au début, c'est il y a un chapitre au château et puis un chapitre au Blanc-Mesnil, donc qui est une commune de la Seine-Saint-Denis, une commune beaucoup plus mixte socialement et beaucoup moins favorisée économiquement. Et il y a un petit groupe de personnages qui gravitent autour du Super U du Blanc-Mesnil. Il y a deux jeunes femmes qui sont caissières, et puis il y a des clients du Super U, et puis il y a le gérant du Super U. Et il y en a un qui va échapper un peu par miracle à sa condition, en devenant star un peu éphémère du hip-hop.
Il s'appelle Abdul Belkrim.
Il s'appelle Abdul Belkrim. Il va rapidement raccourcir son nom en Abdul Bel parce que les producteurs lui font sentir que il vaudrait mieux avoir peut-être un nom moins marqué dans les origines pour réussir dans le show business.
Ouais, sur les conseils aussi d'un de ses amis, parce qu'il y a une solidarité au Blanc-Mesnil pour dire, parce que quand Abdul Belkrim va devenir coach, on peut le dire, au château, il aura, quand on devra changer un des employés, eh bien, il aura tout de suite l'idée de faire venir une de ses amis.
Oui.
Et puis, Brahim lui dit, voilà, il n'avait pas l'intention de laisser le premier de cordée s'élancer seul vers le sommet. Il avait l'intention d'être tracté à sa suite, il le souhaitait par tous les moyens possibles. Donc, il y a une espèce de solidarité, on essaie de se donner la main. Enfin, je l'ai vu comme ça.
Oui, bah c'est simplement un groupe d'amis. Donc, ils ont entre eux les relations que peuvent avoir un groupe d'amis, de s'aider mutuellement. Et puis, quand ça marche pour l'un, bah, ça peut peut-être aider les autres à avancer aussi. Et donc, Abdul, il connaît une gloire assez éphémère dans le showbiz, comme plein de gens, hein, tous ces gens qui font un tube ou qui sont connus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, ça marche plus très bien. Et il a une idée, il va se reconvertir comme coach sportif et il est embauché au château. Donc voilà, c'est le premier personnage issu du Blanc-Mesnil qui entre au château et tout se passe très bien. Enfin, tout se passe très bien, sinon que Serge Langlois est un peu jaloux du temps que sa femme passe avec son nouveau coach et aussi la voisine, parce que la voisine décide que tout d'un coup, elle aussi, elle a besoin d'un coach. Mais bon, ça se passe assez bien. Mais il y a les autres personnages du Blanc-Mesnil qui... Je trouve que ça a l'air pas mal, finalement, la vie de château. Il y en a notamment une qui s'appelle Sandrine, qui est caissière au Super U. Ah. Et alors, elle a tout à fait l'intention de prendre ses quartiers au château le plus vite possible et d'y faire...
On
ne dira pas quoi, voilà, tout de suite.
On sait d'emblée qu'elle a... C'est quand même assez trouble, hein, elle a passé trouble. On sait d'emblée qu'elle cache de lourds secrets. Peut-être qu'elle a des projets peu avouables. Mais voilà. Et qu'elle s'occupe de son fils, Marvin, qui est hyperactif et qui va mettre une certaine ambiance là. Et ce Marvin, il va rencontrer les enfants du couple Langlois, et notamment Joséphine, qui est au fond la narratrice de ce roman. Mais n'allons pas trop vite, et on va faire une première pause musicale. En préparant cette émission, je vous avais demandé de me proposer un titre pour cette pause musicale, et vous avez choisi une chanson du groupe britannique Television Personalities, qui s'intitule « Come Back to Bed ».
In my arms, forget those storms. There's not many of us left, so we should stick together. Leave the adults and their like to worry about the weather and such trivial things.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous venons d'écouter Television Personalities qui chantait Come Back to Bed, titre issu de l'album Memories is Better Than Nothing, une chanson choisie par Julia Deck, chanson étrange et mélancolique, au ton presque menaçant, qui se termine par retourne te coucher, ou plutôt revient au lit. Alors pourquoi avoir choisi ce titre ?
À vrai dire, j'ai choisi un petit peu instinctivement la dernière chanson que j'ai connue par hasard et qui m'a touchée. Voilà, donc je connaissais pas, enfin c'est un groupe assez ancien que je connaissais pas vraiment, et puis j'ai entendu ça dans une soirée et j'étais très touchée, ne serait-ce en dehors des paroles, par le côté très, enfin voilà, on dirait une petite mélodie, une berceuse pour enfants, quelque chose qu'on entend avant de se coucher, cette voix très très douce et berçante. Et il y a en effet, comme vous dites, au milieu de ça, quelque chose d'assez inquiétant. On ne sait pas bien quoi. Donc c'était ce côté, le pays de l'enfance qui m'a touchée dans cette chanson. Et ça m'a fait penser au livre, parce que le point central qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est la narration qui est ce qui raconte toute cette histoire au château. C'est la petite fille qui a été adoptée par les Langlois, qui a 7 ans quand démarre le livre, et qui est une petite fille surdouée. Donc ça explique qu'elle n'utilise pas toujours un vocabulaire approprié pour son âge. En plus, elle raconte l'histoire a posteriori. Elle est un peu plus âgée quand elle raconte l'histoire. Mais donc, c'est cette petite fille qui est témoin des agissements des adultes, alors des agissements de ses parents qui sont parfois un peu étranges parce qu'ils mènent la vie de célébrité, ils se mettent en scène beaucoup. Donc, c'est pas une vie d'enfant banale, ne serait-ce que dans ce rapport-là. Et puis, elle observe aussi tous les jeux, les manigances des employés de maison.
Alors, elle connaît bien le château, hein. Elle le voit, elle connaît tous ses recoins. Elle est poussée par une curiosité de l'enfant de 7 ans qu'elle a. Elle regarde par la serrure, il y a un petit peu quelque chose de barbe bleue, enfin, ou des contes par certains côtés. Elle est un peu attirée par l'interdit.
Bah, un château, alors moi je n'ai pas grandi dans un château malheureusement, mais j'imagine que pour des enfants c'est quand même un formidable terrain de jeu. Et d'ailleurs c'est un formidable terrain de jeu mentalement. Enfin, on a plaisir à imaginer tout ce qu'on pourrait faire dans un château. Et puis c'est aussi un lieu clos, puisqu'on n'est pas, on n'est pas près des autres habitations, on n'est pas près des autres familles. C'est pas pour accueillir des enfants ou pour aller chez les autres enfants, il faut prendre la voiture. Hein. Alors que sur place, il y a plein plein de choses à explorer et puis il y a plein de gens à observer. Et voilà, donc elle est finalement aux premières loges du théâtre.
Et surtout, ce que j'ai trouvé qui était très réussi, c'est, vous le disiez, c'est certains récits rétrospectifs, mais au début, on a une enfant de 7 ans, voilà, qui est encore dans la pensée magique, le devinement, et puis progressivement, elle grandit, et elle est plutôt dans une pensée de raisonnement. Et c'est-à-dire qu'au début, on a l'impression qu'elle met les choses un peu à plat. D'ailleurs, ça participe un peu à l'humour. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il y a des vérités existentielles peut-être qui lui sautent au visage dans les rapports des personnages ou dans les faits qui se produisent devant elle. Est-ce que vous avez pensé, dans la construction du roman à cette évolution?
Pas vraiment. Bah, je dirais que ça
Après,
s'est.
elle est très intelligente parce qu'elle est hors norme, cette enfant.
Bah, il y a aussi des choses inhérentes à la manière de composer un récit. C'est-à-dire que quel que soit le personnage qui raconte, au début, il faut bien présenter la situation et puis ses développements et puis expliquer pourquoi les choses se passent de telle ou telle façon, que ce soit des événements effectifs ou des événements psychologiques. Donc là, je parle un peu de technique et de cuisine,
Bien sûr,
mais
ça nous intéresse
mais
aussi.
ben,
Nous
c'est
sommes pas
aussi
votre
ça. Donc
auteur.
au début, alors moi, vraiment, oui, c'est vrai, parfois, je lis des trucs où on commence par des longues digressions psychologiques avant de rentrer dans le vif du sujet. Moi, l'école, parce que j'ai appris à l'école, mais les textes littéraires que je préfère, et les romans que je préfère, c'est on est plongé dans l'action, on est plongé dans la situation, on a une représentation visuelle quasi immédiate du lieu où on se trouve, on arrive à se figurer les personnages et après on les découvre dans leurs nuances. Mais au départ, c'est quand même l'action, la situation qui captive ou pas. En tout cas, moi je fonctionne comme ça, donc j'essaye de reproduire ça. Et au début, simplement, bah, elle est témoin de. Elle rapporte ce dont elle est témoin. Et après, on rentre un peu plus dans l'analyse, mais c'est aussi parce que c'est le mouvement du récit qui le permet.
Et Joséphine, au-delà des faits, comme vous le dites, hein, elle nous décrit, elle nous apprend aussi beaucoup de l'ambiance émotionnelle et affective qui règne dans la maison. Et je l'ai trouvée très seule. Et dans la relation avec sa mère et homme, qui se drogue à la joie, façon avec la méthode Coué, qui veut faire le bonheur de sa fille en la forçant, j'ai senti que, voilà, il y avait entre les deux, il y avait une grande difficulté à rentrer en communication.
Oui, il y a une communication qui ne se fait pas entre la mère et la fille, simplement parce que elles ne s'intéressent pas du tout aux mêmes choses. Et ça, je crois beaucoup que, bah, évidemment, les enfants sont influencés par leur milieu, mais on peut aussi avoir des goûts très forts dès l'enfance. Et cette petite fille, elle a un goût immodéré pour la lecture, pour
Lecture
simplement.
qui est en fait Ambre Langlois là veut l'empêcher de lire. On est obligé de cacher les livres de peur
C'est ce que j'allais vous
qu'on la
dire.
prive.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que donc cette petite fille, dès
Ouais.
qu'elle
Il y a quelque chose
commence
de
à déchiffrer
transgressif.
des lettres, elle a envie d'y aller, elle lit de plus en plus, c'est aussi comme ça que son vocabulaire se développe. Et la mère, évidemment, elle n'est pas du tout du côté de la lecture, elle est du côté de l'image, et elle s'en méfie parce que ça lui semble aussi quelque chose d'un petit peu inaccessible, où elle n'a pas ses marques, où elle n'a pas, elle se sent pas à l'aise. Donc il y a une première, voilà, une première crispation autour de la lecture.
La mère va jusqu'à dire à la nouvelle nurse, sauf en cas de pluie, il nous était enfin c'est Joséphine qui parle, sauf en cas de pluie torrentielle, il nous était interdit de lire, nous étions bien trop jeunes pour nous abîmer les yeux sur des pages imprimées.
Oui, mais ça, c'est des trucs qu'on a entendus. Moi, je me souviens d'avoir. Enfin, ce n'est pas des choses qu'on m'a dites quand j'étais petite, mais oui, les enfants, on les incite souvent à aller jouer au grand air. Et la lecture, c'est pas forcément la chose la plus valorisée par tout le monde. Mais il y a autre chose qui m'intéressait dans votre question précédente, c'est ce rapport à la solitude. Vous disiez qu'elles sont chacune seule, la mère et la fille, elles sont effectivement entourées de plein de gens, mais plein de gens qui les comprennent pas vraiment, et sans doute qu'elles-mêmes ne se comprennent pas complètement. Ça, c'est quelque chose qu'on me renvoie souvent sur les précédents livres aussi, c'est la solitude des personnages. Et au début, je faisais des livres sur des personnages qui étaient effectivement très solitaires. Et plus ça va, plus je mets de personnages, et je me rends compte que les personnages, même entourés, ont cette espèce de sont un peu comme fonctionnent un peu comme des îles, quoi. Il y a pas tant de connexions que ça qui se font avec le monde extérieur. Mais moi, je vois pas trop le problème en fait avec ça, parce que je veux pas faire de la philosophie à 50 centimes d'euros, mais on est toujours fondamentalement, existentiellement seul, et c'est aussi notre singularité qui nous rend intéressants. Donc, ouais, je dois dire que les personnages qu'on peut renvoyer à une forme de solitude, moi, m'intéressent plus que...
Mais dans l'enfance, c'est plus difficile, parce qu'il y a quand même la relation entre les parents et les enfants. Et si vous m'autorisez, est-ce que je peux lire un extrait qui illustre ce dont on est en train de parler ? Donc c'est toujours Joséphine, puisque c'est elle la narratrice. Le jour où elle comprit, Ambre, que nous étions autonomes en lecture, Ambre referma le Mickey et demanda pourquoi elle se fatiguait puisque nous étions si savants. Je retins sa main. Je lui dis que nous avions besoin d'elle, que l'avenir nous faisait peur. Elle me regarda sans comprendre. Elle trouvait qu'il était trop tôt pour penser à l'avenir, qu'il fallait profiter de l'enfance. Mais j'insistais. Je dis que j'aimerais savoir pour après. Ambre crut me rassurer en m'expliquant que je pourrais devenir tout ce que je voulais, actrice, chanteuse ou même ambassadrice de l'UNICEF comme elle quelques années plus tôt. Mais je n'étais pas inquiète pour le métier, j'étais inquiète en général. Il y a une certaine souffrance de cet enfant.
Il y a une certaine souffrance, il y a un certain, il y a un manque affectif certain.
Je me suis demandé si vous vouliez interroger l'idée des enfants de stars, des enfants d'instagrammeuses. Et notamment, il y a cette image de Michael Jackson mettant cet enfant au-dessus du vide. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne manque pas de me sidérer, c'est cette façon qu'ont les stars de mettre en scène leurs enfants comme si c'était un attribut supplémentaire, un accessoire plus. Enfin, c'est quand même assez stupéfiant. Mais finalement, cette question de solitude de l'enfance, il me semble qu'elle nous concerne tous, ou qu'elle concerne beaucoup de gens. Enfin, ne serait-ce que la naissance, on se retrouve tout d'un coup seul au milieu d'un monde inconnu. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de fondamentalement lié à l'enfance, en dehors du cadre qui est celui du livre, quoi, un environnement extrêmement, extrêmement privilégié. Oui, je pense qu'il y a une condition commune à tous les enfants avant de découvrir qu'il y a des inégalités liées à l'origine, à la classe sociale, au niveau de rémunération des parents.
Alors, bon, je voudrais quand même prévenir nos auditeurs, parce que quand on a écouté le dernier extrait musical et qu'on est en train de parler assez gravement, hein, de cette relation mère-fille, on pourrait croire que votre livre est un récit sombre et douloureux, angoissant sur l'enfance malheureuse et négligée. Mais surtout, dans ce livre, je dois dire que j'ai ri. C'est peut-être un paradoxe. Il y a énormément d'humour. Enfin, l'humour transparaît. Alors, j'aimerais savoir si c'était un objectif initial. Est-ce que c'est le fait que la narratrice soit une enfant qui a créé ce mouvement ?
Je vois pas en quoi la tristesse et l'humour seraient contradictoires. C'est quelque chose que, oui, peut-être on peut supposer a priori que c'est contradictoire. Pour moi, ça l'est pas du tout. C'est vrai que ma forme de ma manière d'appréhender le monde depuis l'enfance, et sans doute parce que ça a été beaucoup pratiqué dans ma famille, c'est souvent à travers l'ironie. L'ironie, on peut considérer que, de loin que c'est de la moquerie, quelque chose qui tendrait vers le cynisme. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est d'abord un mécanisme de défense, une manière de se protéger de choses qui peuvent être un peu douloureuses, de tourner les choses de manière plus légère, de manière qu'elles soient plus supportables. Donc ça, c'est quelque chose que... Voilà, l'affect communément répandu dans ma famille, c'est l'ironie. Donc je pratique ça dans ma vie, et évidemment que ça transparaît dans l'écriture, parce que voilà, enfin, l'écriture, c'est quand même extrêmement très fortement lié à la personnalité de chacun, il me semble. Je le pratique tellement que j'ai tendance à en faire trop, et je trouve que l'ironie à trop haute dose, en fait, c'est assez insupportable. Donc
dosé dans...
Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que je fais beaucoup d'efforts pour tempérer. Enfin, je réécris beaucoup, et donc j'ai tendance à gommer. Et je trouve que, voilà, c'est pas du tout contradictoire avec la tristesse. Enfin, on est tous soumis à des affects différents au cours de la même journée. Et il y a aussi un plaisir de la tristesse, enfin, voilà, qui n'aime pas écouter des chansons tristes de temps en temps. La difficulté, alors là je vais encore revenir sur un truc technique, c'est qu'on ne peut pas passer sans aucune transition, ou alors il faut vraiment le travailler, de l'humour à la tristesse. Donc là aussi, c'est des choses que... Alors dans les premiers jets de l'écriture, j'écris assez spontanément, et puis après je retravaille parce qu'il faut qu'on y croie, que ce soit un moment plus léger ou un moment plus grave, il faut essayer d'embarquer le lecteur avec soi. Donc je m'arrange pour composer des transitions, en tout cas.
En effet, mais c'est extrêmement réussi dans votre livre, c'est extrêmement subtil, mais... Alors vous parliez de chansons tristes, on en a écouté une. J'aimerais arriver à notre deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter une chanson qui aurait pu être sur le deuxième album de Virginia Langlois, la fille de Serge Langlois, qui avait eu un succès d'estime avec la chanson « Seul contre toi ».
Voir le monde de tout là-haut. Parole d'auteur. Christophe Hein.
Julia Deck, depuis près de 10 ans, vous publiez des romans aux éditions de Minuit qui sont traversés par l'idée du fait divers, de l'enquête policière et de disparition plus ou moins volontaire. Une ambiance qui emprunte au genre polar. D'ailleurs, vous profitez de votre venue au Salon Polar du Sud à Toulouse pour... Vous êtes invité pour venir nous rendre visite ici dans les studios. La thématique cette année de ce salon littéraire consacré à la littérature noire est autour du polar. Et d'après le programme, seront interrogés les usages et les emprunts faits à cette littérature d'origine populaire par les autres genres, si je puis dire, classiques. Votre roman, Monument National, est-il, peu ou prou, un polar ?
Je suis pas sûre que ça corresponde à la définition. D'ailleurs, je serais bien embarrassée de donner une définition. Non, je pense qu'il y a des éléments qui sont vraiment déviants par rapport au polar, où on est dans une enquête et où les personnages correspondent peut-être un peu plus à certains archétypes. Et c'est pas un jugement du tout, hein. Moi, j'aime bien lire ce genre de livre. Mais je veux pas subir des contraintes de genre. Je veux pas me dire j'ai pas le droit de faire ceci ou cela parce que c'est un polar et donc il faut que tout reste dans le cadre du polar. Si j'ai envie d'introduire des éléments de comédie sociale, si j'ai envie de mettre des gilets jaunes, un confinement et Brigitte et Emmanuel Macron, eh ben je considère que j'ai le droit et peut-être qu'un éditeur de polar dirait que non, c'est pas possible de faire intervenir la réalité de manière aussi frontale.
Vous avez l'impression que ça donne crédit à l'histoire, en particulier dans Monument National, il y a les gilets jaunes, c'est-à-dire que la grande histoire, l'histoire avec un...
Je ne sais pas si ça donne du crédit. À vrai dire, ça, ce n'était pas un projet très... Enfin, je n'avais pas spécialement l'intention de faire ça. Mais c'était une suite logique de ce qu'on disait tout à l'heure sur les magazines People. Les célébrités, elles s'introduisent chez vous. Moi, j'ai eu envie de m'introduire chez elles. Là, les années qu'on a vécues dernièrement, où l'actualité a été quand même réduite à très peu de sujets, le mouvement des Gilets jaunes qui a duré très longtemps, qui a été extrêmement dur, avec une répression extrêmement forte, et puis après, les confinements, où là, toutes nos vies étaient monopolisées par cette actualité, je me suis dit... Moi, je suis entraînée de force vers cette actualité. Et ben, cette actualité, je vais la prendre et je vais m'en servir dans mon livre. C'était aussi une manière de dire qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel et pas forcément dans le meilleur sens du terme. Pour moi, c'était vraiment une manière de travailler des situations qui sont problématiques. Donc, j'ai eu un peu l'impression d'enfreindre... pardon. Un tabou de la littérature récente où on ne fait pas si facilement intervenir des personnages réels dans un roman de pure fiction. Et puis finalement, je me suis rappelé que dans les romans du 19e, en fait, on fait ça très très souvent et on l'a fait après. Enfin, il y a vraiment chez Balzac, chez Zola, il y a facilement des personnages politiques en vue qui interviennent dans une scène, dans un salon mondain. Voilà, il y a des personnages de fiction et puis il y a des personnages réels. Et en fait, si on en prend son parti et qu'on y va, ça peut fonctionner très bien parce que c'est les personnages réels, les politiques eux-mêmes, ils passent beaucoup de temps à se mettre en scène auprès du public, de l'électorat. Donc ils ont en eux-mêmes, ils portent en eux-mêmes cette dimension de personnage. Donc finalement, c'est pas si difficile que ça de les incorporer dans un roman.
Alors polar, on l'a vu, mais alors dans de nombreux articles, interviews, votre roman est qualifié de social. Est-ce que, parce qu'il joue du contraste des milieux sociaux, on l'a dit, le Blanc-Ménil Rambouillet, l'intervention des Gilets jaunes, vous, est-ce que vous retenez ce qualificatif de roman social ?
Alors, je trouve roman social, je trouve que ça... je sais pas, moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est l'Assommoir ou Germinal. Et d'ailleurs, j'ai lu ni l'un ni l'autre, comme quoi c'est vraiment un préjugé. Oui, on a l'impression de quelque chose d'un peu sinistre, roman social. En revanche, la question des rapports sociaux, des classes sociales dont on entend parfois dire qu'elles n'existent plus, et ça me paraît un mensonge éhonté. Ça m'intéresse énormément. Oui, ça m'intéresse énormément, ça m'a toujours intéressée. Peut-être que la raison la plus évidente, c'est que dans les générations récentes, ma famille est complètement sortie des classes sociales dans laquelle elle était née pour échapper à une forme de conditionnement social. Et c'est pas, voilà, souvent on sort de sa catégorie sociale pour faire mieux, faire plus, faire différent. D'ailleurs, mais ça va pas sans heurts. En fait, c'est toujours très difficile.
Pardon, excusez-moi. Ce terme de transfuge de classe que moi, j'apprécie pas trop.
Oui, je suis d'accord avec vous, j'aime pas le terme, je transfuge.
Comme il y a une trahison.
Oui, voilà, il y a une forme de trahison, c'est un terme un peu louche, transfuge. Mais on ne change pas impunément de classe sociale, enfin, d'une certaine manière, c'est aussi se couper de ses origines. Donc c'est toujours lié à des chamboulements psychiques et importants, et après chacun négocie comme il peut avec ça. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse. Et puis l'autre versant de la question sociale qui m'intéresse, c'est les rapports de domination au travail. Parce que alors ça, j'y ai été confrontée de manière directe, parce que j'ai toujours, jusqu'à très récemment, exercé une profession en dehors du travail de l'écriture, parce que écrire, ça demande beaucoup de temps, mais il faut pouvoir vivre pendant ce temps-là. Donc j'ai toujours travaillé, j'ai beaucoup travaillé trop, simplement parce qu'il y avait l'écriture qui s'ajoutait au travail, on va dire alimentaire. Et voilà, les rapports de hiérarchie dans les entreprises, les inégalités manifestes, ça c'est quelque chose à quoi j'ai été beaucoup confrontée et qui sont un théâtre d'observation évident.
Alors je ne veux pas vous mettre dans une boîte, hein, on a dit polar, social, mais bon, ceux qui voient un roman à clé, est-ce qu'il se trompe? Parce que, alors, vous jouez des patronymes, Dominique Bernard, Dominique Besnéard, Sophie de Mézieux, Geoffroy Roux de Mézieux. Roman à clé, non. C'est pas.
Alors,
vous nous emmenez jusqu'au bord de l'archétype, du cliché, de la réalité, mais après, vous nous passez la main, c'est-à-dire inspirer librement.
Alors, je vais vous répondre par une anecdote. Il y a eu un article sur le livre dans le Times Literary Supplement, qui est vraiment un journal littéraire extrêmement réputé en Angleterre. Et dans la chronique sur le livre, ils expliquent point par point en quoi c'est la vie de Jean-Paul Belmondo. Et je l'ai lu avec fascination, cet article, parce que j'ai appris plein de trucs sur la vie de Jean-Paul Belmondo. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs qui collaient. Mais moi, je connais rien à la biographie. Je connais un peu sa filmographie. Mais le chroniqueur démontrait ça point par point. Et j'étais absolument médusée. Comme quoi, on voit des clés un petit peu là où on a envie d'en voir, quoi.
Bien sûr. Bien sûr. J'avais une dernière question. Est-ce que vous êtes en train d'écrire votre prochain livre? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, ou c'est top secret?
Je suis en train d'écrire quelque chose, je suis bien lancée dans un projet d'écriture. C'est toujours difficile de dire est-ce que je suis sur un prochain livre, parce que je ne sais pas à ce stade s'il y aura vraiment un objet livre qui sera vendu en librairie. C'est comme une espèce de superstition. Oui, je travaille sur un projet d'écriture, et par contre, je vous en dirai pas un mot.
Très bien. Bon, alors, nous allons conclure. Votre livre est d'une extrême originalité, Julia Deck, on l'aura compris. Il est d'ailleurs lauréat 2022 du prix Jean Frustier, original par son thème même, celui du monde des célébrités, un lieu de fantasmes que vous transformez en un lieu de règlement de compte de chausse-trappe en démasquant les faux-semblants. Original par votre style unique, votre drôlerie, qui est avec un ton qui est parfois mordant. Hein. Quand vous tendez un miroir à vos contemporains, on ne s'ennuie jamais, le suspense est tenu jusqu'au bout. Hein. Il nous mène inexorablement vers le plaisir d'un dénouement inattendu. Et ceux qui ont lu Propriété privée auront un plaisir supplémentaire à lire Monument national, publié aux éditions Domini. Oui, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je sais que votre temps est compté en tant qu'invité du Salon Polar du Sud. Je vous remercie beaucoup, beaucoup.
Merci
d'avoir accepté cette rencontre.
Merci beaucoup. Merci.